Bonjour tout le monde, bienvenue à Innove et Créa. Aujourd'hui, mon invité, c'est Bernard Duguay. Bonjour Bernard.
Bonjour Anne-Julie, comment ça
Yay!
Va?
Ben, ça va bien, je suis tellement contente. Écoute, tu portes plusieurs chapeaux. Producteur multimédia, réalisateur, scénographe, directeur artistique. Tu as fondé Lucion en 2000. Ça fait déjà...
Déjà 22 ans.
Tu as une longue et riche carrière. Quels sont les projets qui t'ont le plus marqué?
Wow, oui.
Comme ça, en intro.
Comme ça. je pense que celui qui m'a plus touché, je pense, c'était la commémoration du centième anniversaire de la fin de la guerre de 14-17. Il était à Arras, en France. Et puis, le Canada offrait une production à la ville de Arras parce que le Canada avait contribué, à la victoire de c'est une espèce de cuve là, à Arras, puis il avait repoussé les Allemands avec une nouvelle technique. En tout cas, c'était vraiment innovateur, justement, à l'époque. Et puis, alors, t'arrivais là, puis c'était à grand déploiement. Je veux dire, il y en avait, je pense, 24 projecteurs 4K. On était sur le centre de la ville, il y avait des lasers. Tout était là, puis à tous les ans, les villageois, les Arassois, se rendent là. Mais c'était grandiose, puis ça finissait par les hymnes nationaux, puis tout le monde chantait, tout le monde pleurait.
Wow.
Puis là, j'ai vu l'effet, en fait, de rassemblement. Puis là, évidemment, ça nous payait des bières à gauche puis à droite. tout le monde, c'était vraiment un grand succès pour que les gens sentent la communauté.
À plein niveau, dans le fond, tu sais.
Ouais. C'est
artistique,
ça.
Technologique, collectif. Nous, on se connaît, depuis un bout de temps. Moi, je connais ton travail depuis la fin des années 90. Parce que moi, j'ai fait mes premières armes, en fait, en production scénique chez Lambert Multimédia à Montréal. Et t'as eu un passage chez Lambert aussi.
Ben oui.
Puis c'était tout un beau trip que de travailler chez Lambert. Fait qu'on en profite pour saluer M. Lambert.
Ben oui.
Sa fille Sophie, avec qui on travaillait aussi, puis la gang.
Wow.
C'était tellement avant-gardiste. Les bureaux étaient dans Montréal-Nord, dans une petite église anglicane. Fait que là, il faut se replacer à la fin des années 90, à 99-2000. Je pense, il me semble que la salle de réunion, c'était sur l'endroit où était l'hôtel traditionnellement.
Oui.
C'était pluri-multi-transdisciplinaire. Il y avait tellement du monde brillant, cutting edge, tu sais, dans leur façon de faire. À un moment donné, tu m'avais dit... C'était un peu le Moment Factory de l'époque.
Oui,
là.
Absolument. Parce que tu avais toutes sortes de... Il y a plusieurs grands réalisateurs qui sont passés par là. Tu vois ça maintenant. Puis c'était... Il allait chercher les contrats à la bonne vieille méthode. Là,
ouais.
Tu sors le client dans les restaurants, toi, quatre claques dans le dos. Puis
quatre verres.
Toi, quatre verres en plus. Et puis ça marchait. Puis ce que j'appréciais beaucoup, c'est que... Il n'était pas d'un genre, dans le sens que, tu sais, il donnait un mandat, mais il te le donnait. Fait que là, tu volais
ça
tes propres ailes. C'était vraiment un grand, grand, grand humain, Jacques Lambert. Vraiment, il nous a aidé là-dessus, surtout.
Oui, puis si je me souviens bien, l'histoire que j'avais là, faudrait lui demander si c'était bien ça. Mais moi, ce que j'avais retenu, c'est qu'à l'époque d'Expo 67, c'est lui qui était comme en charge, qui avait amené tout le volet audiovisuel. Fait qu'il était bien en avant-garde, bien avant tout le monde sur les méthodes, les machines, les pratiques. Puis c'est ça qui faisait sa réputation, là.
Ah oui. Ben, c'était un visionnaire, puis il amenait toute sa famille avec lui. Il avait vraiment développé l'éducation à distance. Alors, tu sais, il se promenait avec des VHS puis des télévisions, imagine. Même au Brésil, pour que des gens apprennent des disciplines qui n'étaient pas disponibles là-bas. Fait que il en a fait...
Ouais, toute une époque.
Ouais, vraiment.
Des beaux gros shows en plus. Moi, j'avais travaillé sur deux gros shows. Je pense qu'il y avait Expo... Je pense qu'il y avait le pavillon du Canada d'Anna.
Ouais.
Puis moi, j'avais travaillé aussi sur, l'Eurospin Center en Belgique.
Ah oui, oui.
Fait que tu sais, on était vraiment... je fais le pont, en fait, avec ton travail parce que je trouve que tu as gardé ça. C'est-à-dire que il y avait vraiment une collaboration multidisciplinaire. Fait que t'avais des artisans, il y avait des peintres, mais t'avais aussi des animateurs. Puis à l'époque, je me souviens d'un de mes collègues qui était un des premiers à travailler en 3D. Là, j'ai oublié le nom de ce logiciel-là, là, qui était, je pense, québécois ou quelque chose comme ça.
Oui, c'est Soft Image. C'était
Soft Image.
Le début de Soft Image.
C'était tellement foisonnant d'idées puis d'innovation, ça, clairement, au service d'un narratif artistique en réalité, là, tu sais, et corpo. C'était tellement un beau moment. Mais moi, la raison pour laquelle j'ai toujours admiré ton travail, c'est qu'il y a tout le temps de la poésie. Il y a cette contribution-là d'artisan. Fait que t'as l'espèce d'analogue rencontre la technologie, mais la machine reste au service du propos.
Oui.
Ce qui, je trouve, tend à disparaître, pas dans tout, mais en tout cas, il y a eu une vague à un moment donné où c'était très machine. T'as beaucoup de projets qui sont, je trouve, au niveau de la sensibilisation aussi sur des sujets. Fait que ça m'a toujours beaucoup touché.
je pense qu'on partageait avec Jacques Lambas que il y avait beaucoup d'artistes à l'époque dans la boîte. Il y avait des peintres, des illustrateurs. Fait que ils venaient pas du monde corporatif. Eux autres, ils en avaient rien à serrer dans le fond.
Non.
Et puis, fait qu'on se nourrissait beaucoup de les visions intérieures des gens, tu sais.
Ouais.
Alors, puis c'était un peu ça qui est resté pour moi, tu sais, comment tu te sens vraiment, puis comment... Fait qu'il y a des choses qui sont vraiment très humaines, ancrées, là, puis la façon de le dire a changé beaucoup, mais nos émotions sont à peu près les mêmes, tu sais, comment on vit ensemble, tu sais, comment on vit mal ensemble, et toutes sortes...
L'expérience humaine reste l'expérience humaine,
tu sais. C'est ça. Fait que, tu sais, qu'est-ce qui nous apaise, c'est toujours intéressant, fait que j'essaie toujours d'aller chercher ça. Et puis, il y en a qui vont chercher qu'est-ce qui rend les gens en colère. Moi, je suis pas là-dedans, mais je suis plutôt dans le peace and love.
C'est plus sa personnalité. Je voulais, avant d'aller plus loin, pour les gens qui connaissent peut-être moins le multimédia, puis pour les gens qui écoutent le podcast, ben vous savez comment j'étais un peu un nerd, j'aime bien les définitions de dictionnaire. Fait que là, je voulais revenir sur c'est quoi du multimédia. Fait que dans le Robert, il y a deux définitions. La première, c'est qui concerne ou utilise plusieurs médias. La deuxième, c'est plutôt de ça dont on parle avec toi aujourd'hui. La technique intégrant sur un même support des données de différentes natures, son, texte, image, consultables de manière interactive.
Oui.
Fait qu'on est vraiment plus là-dedans en termes de pratique. C'est de ça dont on va plutôt parler aujourd'hui.
Ben c'est ça, c'est que la façon de raconter une histoire a tellement été révolutionnée, si on veut dire, là. L'espace devient le narratif, l'espace devient le canevas. Fait que t'es plus là à aller chercher le contenu dans un livre ou même sur la télé. Le contenu t'habite. Puis là, dépendant comment tu te promènes dans l'espace, musée ou en ville, dans un parc, tu rentres plus ou moins creux dans un chapitre de l'histoire. Fait que ça, c'est tout nouveau. Et puis je trouve que ça l'habite aussi, ça l'a vraiment intéressé les universités parce qu'il se trouve que ils se rendent compte que la salle de classe n'est pas le lieu idéal pour apprendre. Alors, ils cherchent des nouvelles façons d'apprendre. Alors là, on se promène. Les rues, les parcs deviennent les canevas qui sont les plus communs et accessibles. Fait que c'est pour ça qu'on est beaucoup sollicité pour faire de l'art public dans ces parcs-là, mais qui sont maintenant plus narratifs. T'sais. Ils racontent une histoire, puis ils racontent une histoire qui va aller toucher la communauté. Puis là, je trouve que, justement, l'effet post-pandémique fait qu'on a tellement, tu sais, la communauté s'est évaporée beaucoup, là, on est tout seul dans nos affaires, mais là ça, il faut recréer tout ça. Alors, là, je trouve que les gens ont tellement soif de se refaire des amis.
Oui, vraiment. Oui. Il y a comme un... On dirait que le tissu social s'est un peu détricoté pendant la pandémie. Puis, je trouve ça intéressant ce que tu dis, parce que ça veut dire qu'en réalité, le lieu devient un médium, lui aussi.
C'est ça.
Donc, c'est un cadenas, mais de par les textures, de par l'architecture, de par peu importe ce qui s'y trouve, ça devient aussi un acteur, si tu veux, de narratif, là.
Il y a un gros terminologie, il appelle ça « placemaking ». tu sais. Mm. Alors, c'était plus juste, tu sais, autant que, bon, Place Jacques-Cartier à Montréal, tu sais qu'il s'est passé tellement de choses-là que, bon, tu la respectes, tu l'écoutes, tu sais. Alors, mais là, on fait d'autres lieux comme ça, maintenant, avec des événements, tu sais, comme le quartier des spectacles, c'est devenu un lieu de placemaking solide parce qu'il y a tellement d'expressions, là, de toutes sortes d'institutions, de factions, d'artistes là-dedans. Fait que, c'est ça, tu sais, on va vers les lieux pour en faire des histoires, en fait, tu sais.
Mm-hmm. Puis, ce qui est intéressant, c'est que le lien, justement, entre la créativité puis l'innovation, ben dans ça particulièrement, le mapping, la technologie du mapping permet encore plus, à ce moment-là, d'intégrer un élément qui est dans le lieu à l'histoire. Tu peux-tu nous dire, pour les gens qui ne sauraient pas ce que c'est le mapping rapidement?
Ben, c'est parce que maintenant, à cause du 3D, finalement, on est capable de déformer des pixels, déformer une carte graphique pour épouser la forme architecturale d'une façade.
Pour faire une projection qui n'est pas en aplat sur quelque chose qui est un 2D sur un 3D.
Ben oui, c'est rendu très, très, très loin. Là. On est capable de déconstruire chaque brique, la repousser, l'amener.
Ouais.
Avant, c'était des gros drive-in, là, les églises. Mais c'est plus ça. T'sais, là, on est rendu on peut rentrer dans l'église, on peut...
pas rentrer dans la matière, ouais. Parce que j'ai vu, tu avais fait un projet de projection sur une place en Europe, peut-être que c'était avec Ara, je me souviens pas, mais il y avait ça justement, on sentait le mouvement à même les composantes architecturales d'un édifice.
Oui,
là.
Puis tu joues avec, c'est comme s'il y avait de la vie dans ce building-là. D'ailleurs, on commence le projet, c'est le 350e de Châteauguay, puis on révèle l'histoire sur l'église. Donc là, on est justement à comment qu'on va faire ça? C'est quoi la thématique visuelle? Mais je regardais que chaque pierre de l'église est intéressante. Elle représente un petit peu tout l'édifice.
Chacune est différente, là. C'est ça. Taillé, puis c'est à même, à même le territoire, là.
Ouais, fait que c'est une belle thématique, peut-être qu'on va aller là, tu sais, je veux dire. Fait que non, c'est foisonnant. Moi, je trouve que on vit à une époque un peu de la c'est comme une renaissance, une nouvelle renaissance. Parce que là, le numérique a décloisonné toutes nos disciplines. Je veux dire, là, c'est tellement facile d'aller chercher des opinions de scientifiques qui sont dans la géologie par rapport à, je veux dire, à l'aéronautique, par rapport à le social, le politique. Alors, tu sais, c'est bar open là, pour raconter des histoires puis faire des liens entre les disciplines.
Puis avoir les bonnes données, les bonnes infos, tu sais, vraiment avoir quelque chose de pérenne, en fait, dans le savoir, à quelque part.
C'est possible, là, de se brancher à des sources de données en ligne. Par exemple, bon, on parle de la température, ça, c'est assez facile, mais il y a des choses un petit peu plus, tu sais, comme la consommation de l'eau. Et faire une sculpture de data art, si tu veux, avec ça, pour exprimer, OK, qui consomme l'eau quand dans cette ville-là, tu sais? Puis sans devenir personnel, tu te rends compte que il y a des secteurs qui utilisent beaucoup plus que d'autres. Fait que tout devient visuel, tout devient
tangible, en fait. Je pense que ça aide à comprendre.
Ouais, oui.
Avant d'aller plus loin, je vais te poser ma question racine que je pose à tous mes invités pour comprendre un peu d'où viennent les gens. Quand t'avais 10 ans à peu près, ou t'étais ado, Bernard, qu'est-ce qui te passionnait? Qu'est-ce qui te fascinait?
Écoute, moi, je me souviens, c'était l'Expo 67. J'avais ma passe, mon passeport permanent, illimité. Puis là, écoute, j'allais toujours au même pavillon. C'était, je pense que c'était la science et la religion, écoute.
OK.
Puis c'était vraiment pas religieux, mais c'était surtout de la science. Puis il parlait de la physique, il parlait de l'astronomie, il parlait de la géologie, puis c'était toujours des exposés. Fait que là, je pouvais pas en écouter assez. Fait que tous les jours, j'allais là. Puis là, tu sors de là, puis t'es dans une espèce de monde éclaté, les sculptures sont plus grandes que la nature, puis là, t'es habité par cette espèce de conscience-là de l'astronomie, tu dis... Fait que là, j'ai commencé à sauter des neurones très jeune.
C'était déjà tripatif.
Fait que ma curiosité, je pense, a vraiment commencé là. Puis j'ai dit, moi, c'est sûr que je vais passer ma vie là-dedans. Tu sais, je veux dire, le savoir, comment... Et disséminer du savoir de façon plus tangible, comme tu me dis, là, tu sais, moins théorique. Là, tu sais.
Mm-hmm.
Fait que c'est facile maintenant. Les technologies s'en vont vers l'Internet of Things. Fait que les choses peuvent réagir de façon mécanique à cette heure-là. Tu sais, on était dans le visuel beaucoup, mais là, la scénographie va pouvoir, avec l'utilisation des robots, des minuscules robots, changer l'espace autour de toi, tu sais, selon tes déplacements. Fait que, wow! Fait que, j'aimerais ça avoir 30 ans, là.
Pour faire un autre.
Un autre 30.
Puis, t'en es venu comment? Mais moi, je sais comment t'en es venu au multimédia comme médium créatif puis d'expression. Mais je veux que tu le racontes.
Ça.
On parlait de cette offre plus tôt.
Non. Ben, moi, j'ai passé 10 ans dans une commune à nourrir des cochons puis ramasser des foins, des carottes puis faire des muffins pour 80 personnes. Puis, à un moment donné, on a pris une grange puis on l'a transformé la grange en théâtre. Pour montrer au monde c'était quoi, qu'est-ce qu'on faisait. Et puis, tout était noir. On avait des multiples, des projecteurs à diapositives à l'époque. Tout ça. Fait que là, je couchais dans le poulailler. Et puis, je me réveillais le matin, puis je commençais à jouer avec les
Ah!
Fait que cette grange-là est devenue une espèce de canevas, terrain de jeu pour essayer des affaires en son et en image. Puis là, ça a commencé comme ça. Et puis, finalement, à un moment donné, je me suis retrouvé à San Diego, dans l'immense planétarium de San Diego, avec 32 projecteurs. Puis là, j'ai fait un spectacle là, pour présenter ce qu'on faisait. Puis, ça n'a jamais lâché vraiment. Là.
Wow!
Je me suis retrouvé là-dedans. Mais, tu sais, je viens du monde de la commune. Fait que j'essaie toujours
Social, rassembler.
L'expérience de vivre ensemble.
Collective,
parce que quand je suis sorti de là, je me suis demandé qu'est-ce que je faisais. Je me suis retrouvé à Radio-Canada avec un job. Je me disais, OK, pourquoi je suis ici? OK, pour payer mon loyer. OK, payer mon loyer pour travailler. OK, pour acheter des affaires. J'avais plus de sens. Le sens était parti.
Ouais.
Fait que là, j'essaie toujours d'un peu rajouter du sens à ce qu'on peut faire dans la vie.
Puis tu y parviens. En fait, je pense que c'est l'ADN de tous tes projets, là, puis on va en parler. Mais je suis curieuse de savoir, tu sais, c'est une discipline, évidemment, avec la technologie, comme on l'a dit en intro, qui a tellement évolué. Laquelle de ces évolutions, tu penses, est la plus importante technologiquement?
Bien, je pense que la géolocalisation est vraiment un point tournant. C'est sans doute pas la seule. Puis là, AI va venir tout bousculer. Mais... le fait que le réseau sait où tu es et tout le système de narratif sait où tu es et peut faire des liens entre les personnes, c'est incroyable. Comment est-ce que tu peux créer des liens dans l'histoire entre deux personnes? On sait maintenant où sont les personnes. On sait où sont une femme ou un homme. On sait. Fait que sans savoir qui ils sont, mais juste la physionomie. Les façons de déplacer, les expressions faciales, c'est fou comment est-ce qu'on est renseigné sur qui est là. Et puis, ça peut façonner l'histoire différemment.
T'as la portion Big Brother de ça, puis t'as la portion plasticine pour raconter une histoire, parce que ton histoire va se modifier selon qui est dans l'environnement.
C'est ça, tu sais. T'as une réaction du public instantanément. Pour un créateur, c'est génial, mais pour le public, c'est vrai que ça peut être un peu intimidant. Tu sais, un peu, là, ça me tente pas, moi, de...
Comment tu sais ça sur moi? cette année, tu as eu vraiment une super belle occasion d'aller à South by Southwest présenter le travail de Lucien.
Oui.
Pour ceux qui ne connaissent pas South by Southwest, c'est un grand festival de musique, de cinéma, de médias interactifs qui a lieu en mars à Austin, au Texas. Ça existe quand même depuis la fin des années 80, là. Fait que c'est pas récent, mais c'est vraiment un incontournable dans notre milieu de création. Je sais que ça t'a beaucoup inspiré. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as retenu de ce séjour-là?
Ben, le melting pot, en fait, est trouvé. Parce que, tu sais, ça a commencé à être un festival de musique. Ensuite, c'est devenu du film. Ensuite, c'est devenu les numériques. Fait que là, tu te retrouves avec... Puis là, c'est rendu politique un peu parce que, il y a beaucoup de causes qui se retrouvent là. Il y a beaucoup de causes sociales qui se retrouvent là. Fait que tu as les intervenants d'à peu près toutes les causes possibles. Et les gens de Facebook, Google, tu sais, c'est comme une espèce de rencontre au sommet de qu'est-ce qu'on va faire? Fait que là, c'est fascinant de voir les conférences. Puis moi, j'ai été vraiment... J'étais allé à un pavillon fait par Mia Wolf, là. Et puis là, j'ai,
oh, mon
j'ai
Dieu,
vraiment...
Oui.
C'est comme s'ils prennent... c'est une grosse inspiration psychédélique, en fait.
Ouais,
c'est,
ouais.
C'est, je pense qu'il y a beaucoup de substance dans le... Mais, alors, mais c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Ils ont fait une espèce de petit village fait, évidemment, avec toutes sortes d'objets. Puis c'est une œuvre d'art, mais qui évoque un village. C'est vraiment beau avec la technique de la lumière noire, là, tu sais, qu'on n'avait pas vu depuis 1975, mais là, eux autres, ils réutilisent ça. Fait que, mais généralement, c'est que tu te rends compte qu'il y a tellement de bonne volonté. Moi, j'étais enchanté juste par la bienveillance qui existait là. Je veux dire, tout le monde veut vendre quelque chose aussi. Il ne faut pas,
ouais,
pas avoir la tête dans le sens. Tu sais. Mais il y a quand même une volonté de rapprochement, tu sais, puis de faire des choses plus simplement, moins commercialement.
Dans ton travail, vraiment les causes, tout ce qui est collectif, social, mais l'écologie aussi, hein, ça revient beaucoup dans ce qui t'intéresse, dans ce qui te passionne, dans tes préoccupations. Puis t'as des beaux projets autour de ça. Je pense à ton projet avec l'artiste albertain Alex Janvier.
Oui. Ben Alex Janvier, c'est que je suis allé à la galerie, le Musée des Beaux-Arts canadien, là, à Ottawa, en 2018. Puis là, ben, je tombe en amour avec son œuvre. Il est vraiment, vraiment un artiste gracieux. C'est comme...
Qui est membre de la nation Cold Lake, là.
Oui, c'est un artiste d'aîné de Cold Lake. Il a 86 ans, mais il a été reconnu comme le groupe des sept, mais autochtone. Alors, ben à force de se parler, on a eu une subvention pour faire un film d'ombre sur son œuvre et la nation d'aîné. Fait que là, j'étais allé plusieurs fois, mais je commence à comprendre de quel bois il chauffe, d'où ils viennent, tous les horreurs qu'ils ont vécues et la façon de penser. C'est ça que moi je trouve extraordinaire. On pense pas de la même façon et Dieu merci. Alors là, plus ce film-là, évidemment, va célébrer son œuvre, mais aussi ouvre la porte vers toute la conversation environnementale. Parce qu'ils ont des techniques, ça fait, comme ils disent, ça fait 3000 ans qu'on est carboneutre. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Puis, ce film-là va ouvrir la porte à ça. Puis là, ben, à force de rencontrer des gens de leur nation, j'ai eu le vent justement de ce personnage-là qui utilise AI pour entraîner des drones à identifier les plantes médicinales et aussi les arbres, évidemment, des épinettes, sapins, tout ce que tu vois. Et se promener sur un territoire et répertorier, en fait, toute la valeur de ce territoire-là. Fait que quand les minières arrivent et disent, ben là, on s'installe là. OK, ouais, mais tu sais que c'est ça qu'il y a là-dessus. Puis là, c'est plus facile à évaluer la valeur du territoire.
Wow!
Fait qu'imagine faire ça, pour la forêt amazonienne, nommer qu'est-ce qu'il y a sur ces territoires-là. Fait que, tu sais, puis là, j'apprends ça de la nation d'aînés. T'sais. Fait que je me dis, OK, tu sais, ils sont vraiment dans l'actualité, là, tu sais.
C'est super intéressant parce que j'ai un des épisodes précédents du podcast. J'ai interviewé Eruoma Awashish, qui est une artiste atikamekw. Et on parle évidemment à un moment donné d'écologie. Puis elle me disait, bon, deux choses que j'ai retenues. D'abord, justement, que si on pouvait les écouter, on pourrait vraiment avoir des solutions puis mettre les breaks sur la destruction qui se passe. Puis parce que, comme tu le disais si bien, ils connaissent tellement le territoire, on a tellement à apprendre des Premières Nations. Puis l'autre chose qu'elle me disait, puis ça m'avait beaucoup touchée, elle a une petite fille, elle disait, tu sais, nous, on protège le territoire pour les, je pense que c'est les sept prochaines
générations.
Alors que nous, on consomme pour,
ben,
tu sais, on imagine notre vie 70 ans, puis c'est à moi, puis that's it.
Mm-hmm.
On pense même pas à l'avenir. Donc, il y a vraiment un shift.
Oui.
Qu'on a vraiment à apprendre à écouter de ces philosophies-là, puis de ces... puis c'est pas juste des philosophies, il y a vraiment des pratiques là, très, très pragmatiques.
Ben, c'est ça qui... Ben, il me parlait de ça, Alain Janvier. Et la beauté de ça, c'est que personne voit la septième génération.
C'est
toujours dans l'inconnu. Mais ton petit-fils va, lui, la voir, qui, lui, ne verra pas la
question. Oui, c'est ça. Ben, il y a une pérennité, puis il y a une humilité à ta présence ici-bas.
C'est ça.
Tu me parlais aussi d'un autre beau projet qui parle de nature, d'écologie, un projet en forêt.
Ça s'appelle Les Nocturnes.
Voilà.
Nocturnes. Puis c'est une fiction environnementale qui est déployé dans une forêt. Alors, on ne regarde pas un film dans la forêt, mais on observe une civilisation qui, elle, aurait réussi le virage climatique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a de l'air rendu de l'autre côté de ça? Puis là, c'est une fiction là-dessus, mais qui est basée sur les réels principes de science environnementale.
Donc, on n'est pas, excuse-moi, parce que le titre du podcast aujourd'hui, c'est multimédia et espoir, poésie, espoir. Puis je pense que c'est ce qui est le fun que tu nous apportes aujourd'hui. C'est la vision de ce projet-là, c'est on survit là, à la crise climatique, on s'adapte, puis on arrive où? Puis on a beaucoup de difficultés à le faire parce que les nouvelles sont tellement difficile. Tu sais, il y a même maintenant une reconnaissance de l'anxiété écologique. Là,
ouais.
Voilà, je te laisse y aller. C'est ce que je trouve ça le fun. On se projette dans quelque chose de positif.
C'est que, tu sais, les pensées, ce qu'on écrit, c'est inventer l'avenir, c'est qu'il faut l'écrire. T'sais, il faut à quelque part le mettre sur papier, le mettre sur dessin, le mettre sur bon. Et puis, quand on fait ça en groupe, ben là, il se crée évidemment des similarités, des parentés d'intention. Alors ça, c'est un gros projet de world making. Alors, je travaillais avec justement des stagiaires qui s'en allaient vers le video game, là. Puis eux autres, c'est « My God, on fait du world making! » Ils parlaient à tous leurs amis. Mais ce world making-là, c'était à propos de nous. Et puis bon, c'est une civilisation, c'est des petits personnages qui se promènent dans la forêt, puis il y a toutes sortes de techniques pour faire vivre ça. Mais l'idée, c'était qu'on comprenne qu'est-ce qu'on fait avec tout ça. Puis là, c'est devenu de plus en plus autonome, comment faire des éoliennes. Alors, tout ce projet-là fait qu'on va apprendre des techniques de survie, des techniques de...
D'autosuffisance, en fait.
D'autosuffisance aussi,
d'espèce d'autonomie énergétique.
C'est ça. Fait qu'il y a une espèce de centre scientifique collé à ça. Et puis, éventuellement, il y a sans doute une communauté qu'on va peut-être...
expérimenté.
Mais c'était ça l'idée. Puis ça marche encore. Il y a déjà un site là, dans l'Outaouais qui a accepté de faire ça. Il y a des subventions qui sont déjà octroyées pour faire ça. Il manque juste quelques bouts de financement. Mais toute la conception a commencé, la scénarisation, on va bientôt mettre les fils dans le bois. Là,
ah mon Dieu, OK. Donc, pour pouvoir voir ça, pour pouvoir visiter ça puis découvrir ça. Tu sais, autant pour le projet avec Alex Janvier ou pour les Nocturnes, il y a un déploiement prévu quand?
Ah ben, l'été 24. Fait qu'on est dans 2 ans.
OK, ça sent bien.
Ah, c'est ça. Parce qu'il faut enfouir les fils, le data, tout ça. Et puis bon, l'équipe se grandit. Fait qu'il faut s'associer avec des universités, des scientifiques qui peuvent évidemment corroborer ce qu'on dit. Sinon, on est les poètes. Nous autres, on fictionnalise la science. Mais il faut que ça soit vrai, tu sais. On peut pas juste partir sans... Puis il y a peut-être une dimension là, de réalité augmentée où ce que tu vois ce qui se passe puis tu comprends le principe qui est évoqué.
Tu me disais qu'il y avait des recherches qui allaient faire qu'on pourrait à un moment donné faire pousser nos maisons.
Ben, justement, à force de chercher là, les bases scientifiques de ça, on s'est rendu compte qu'il y avait Neri Oxman qui, elle, était au MIT, qui fait des recherches sur ça s'appelle Mediated Matter. Alors, elle, c'est que c'est la nature qui va créer la matière avec l'artiste. Elle, son expérience, c'est qu'elle va créer une espèce de structure. De cocon, en fait, une espèce de cocon très, très, très beau, en fait. Et puis là, les vers à soie qu'elle va semer là-dessus vont créer la paroi. Et évidemment, avec toutes sortes de déformations, fait que son œuvre d'art est créée par des vers à soie qui sont pas payés très cher.
Puis qu'on peut. Fait que c'est ça qui permet d'imaginer.
C'est ça.
Qu'avec de la recherche, du raffinement, tout ça, on pourrait. Créer des structures habitables.
Ben, ça se fait aussi dans d'autres domaines, avec le mycélium, tout les champignons. Créer, donner des formes à ça, diriger la croissance de cet organisme-là, si on veut. T'sais. Alors, c'est fascinant comment est-ce qu'on pourrait team up avec la nature à ce moment-là. Ben, c'est sûr qu'on recommence un peu le processus de coloniser. Là. C'est sûr qu'on était un peu là. Mais il y a quand même des principes qu'on connaît à peine. La communication mycélium est déjà formidable. Tout ce qui se dit sous la terre pour protéger la nature est vraiment, c'est riche. Ça,
Puis je pense qu'on n'a pas idée à quel point, peut-être dans notre quotidien, ces choses-là sont déjà mises en pratique. Tu sais, je repense à un autre épisode du podcast avec Marilyn Bastien où on parle d'innovation en mode. Ouais. Puis une des recherches qu'elle avait fait, c'était comment on pouvait teindre les tissus à partir de bactéries qui produisent des couleurs différentes pour essayer justement de diminuer la quantité de produits chimiques qui sont utilisés dans la teinture. C'est une grosse portion de la pollution vient de ça. Mais on parlait aussi justement de l'utilisation de champignons. Puis comme on avait terminé l'épisode, il y avait la designer britannique, la fille de Paul McCartney,
oui.
Stella McCartney, vrai. Qui lançait justement une nouvelle ligne de vêtements qui sont faites à partir... La matière est construite à partir de champignons, tu sais. Fait que ça donne vraiment un effet vinyle, là, tu sais. Mais c'est commercialisé, là. C'est ouais. ça qui est extraordinaire. Je trouve qu'on n'en parle hein. pas suffisamment. On le célèbre pas, tu sais. C'est pas vrai qu'il y a rien qui se fait puis qu'on est pris devant un mur de briques.
Non.
Il y a plein de gens qui imaginent. Ça prend des artistes, ça prend des innovateurs. Mais il y a tout ce beau monde-là qui sont déjà en train de matérialiser des solutions de l'avenir.
Exactement. C'est des îlots d'espoir, tu sais.
Ouais.
C'est sûr qu'il y a un océan de, mais, tu sais, des îlots où ça se construit. Puis je pense que l'avenir est minuscule pour le moment, mais ça grandit, tu sais. Il y a des communautés qui se forment comme ça. Il y a des nouvelles façons de partager de la nourriture. En tout cas, il y a des villes qui impriment leur propre argent parce que ça garde l'économie à l'intérieur de la ville. C'est ça. Moi, je trouve que, en tout cas, l'îlot de l'espoir, j'aime ce terme-là.
Je trouve ça un beau terme.
C'est pas répandu, c'est comme une petite île, mais il existe. Puis Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Là.
Je voulais te demander, j'aime ça qu'on se projette justement dans l'avenir, mais particulièrement, tu sais, pour le multimédia, comme ça a beaucoup évolué, qu'est-ce que tu vois qui s'en vient dans ta pratique que tu trouves super excitant?
Ben, je pense qu'on a... Ben,
qu'est-ce que t'aimerais?
Ouais.
Qu'est-ce qui se précise? On parlait d'AI plus tôt, là, ça c'est quand même un gros bloc.
Ouais. Ben oui, c'est ça. Ben écoute, ben juste l'art visuel comme tel est révolutionné, tu sais. Il ben, y a l'espèce de pinceau Google, là, qui fait que tu peins dans le 3D, tu peins dans l'espace, puis juste imagine les œuvres qu'on va voir là-dedans, dans lesquelles on va pouvoir marcher, là. Fait que ça c'est quelque chose à voir. Puis, AI, moi, j'avais vraiment une grande réticence, là, parce que, bon, justement, à ton insu, on sait où tu es, que tu penses quasiment. Puis. Mais si jamais il y a un ordre mondial, ça va probablement sortir plus de AI que de la politique. Parce que juste dans les diagnostics médicaux, par exemple, tu sais, la banque de données qui existe, c'est sûr qu'il faut faire attention à toutes les appropriations commerciales de tout ça. Mais quand même, je trouve qu'il y a une façon de d'égaliser le jeu, c'est sans doute par ça, tu sais. En tout cas, l'art va peut-être aider ça. Juste par exemple, ça c'est un projet que j'aimerais bien faire, c'est dans un parc où tu as une conversation entre deux personnes, puis ce que tu dis est illustré instantanément. Tu as une conversation et visuelle et verbale. Mais il y a des systèmes AI maintenant qui vont évidemment donner du visuel à tes paroles, tu sais, selon certains styles. Alors, c'est encore embryonnaire, mais c'est quand même très beau ce qui se fait, là. Fait que, tu sais, ce qu'on se dit aujourd'hui pourrait devenir une espèce d'œuvre visuelle animée.
Quoi, ça pourrait donc devenir un outil de sensibilisation, ça peut être un outil de rassemblement collectif.
Oui, tu sais, pour l'empathie, tu sais, veux dire, comprendre c'est quoi la réalité de quelqu'un qui a Alzheimer. Avec des façons de se mettre dans leur peau, tu sais. Ça va être beaucoup plus, tu sais, on n'est plus c'est plus un rapport qu'on lit, là, si on va le vivre, tu sais, un petit peu comme...
Ouais.
L'expérience d'Iñárritu sur les migrants, tu sais, aux États-Unis. Là.
Puis est-ce que il y a des choses qui n'existent pas que tu aimerais voir arriver, que tu aimerais qu'ils se créent en multimédia ou en technologie qui servirait ton...
oui. Ben oui, c'est sûr qu'on a toujours l'espèce de l'effet magique, là, tu sais, comme peindre dans... Ben ça, par contre, ça existe. Tu sais, peindre dans l'espace, et choisir tes textures, inventer avec tes mains dans l'espace, c'est quasiment là, tu sais. Puis en même temps, ben, tu sais, tout ça est formidable, mais ça prend une histoire. T'sais, ça prend ouais. quelque chose. T'sais, des fois, tu vois une pièce de théâtre, il y a comme une lumière sur un acteur sur la scène, puis tu vas t'en souvenir pendant.
Ouais,
c'est
ouais.
ça. Fait qu'il faut pas oublier l'écriture. T'sais, qu'est-ce qu'on dit? Comment je me sens? Comment, t'sais, notre cheminement personnel là-dedans. T'sais.
Sinon, à un moment donné, tu m'avais raconté, on aime les deux beaucoup, l'artiste Boltanski qui est décédé l'an passé. Tu disais c'était justement une des choses qui t'avait ouais. jeté à terre à un moment donné, c'est à la Biennale de Venise,
oui.
Une installation qu'il avait faite, puis qui était toute simple, mais qui t'avait renversé. Là.
Oui. Ben écoute, c'était ça, c'était une lampe et des objets qui tournaient. Puis bon, ben là, tu avais toute l'espèce de parade d'objets hors foyer, en foyer, mais toujours en silhouette. Puis tu dis, oh my God. Puis là, ça m'a influencé beaucoup. J'ai poussé ça de mon côté encore plus loin. Mais puis une lampe, c'est la plus vieille façon de raconter une histoire.
Ben oui.
C'est une chandelle, une main. Ouf, ça marche.
Ouais, fait on remonte loin dans l'histoire de l'humanité. Les premiers shows.
Les premiers shows, exactement. Dans la caverne.
Quels sont tes prochains, tes projets à venir? On a parlé de deux, mais te connaissant, habituellement, tu as un beau carnet de
ouais.
projets.
Ah, ben oui, ben il y a l'illumination d'un pont que je peux pas dévoiler.
D'accord.
Un pont quelque part.
C'est vrai que tu avais participé au projet d'illumination du pont Jean-Cartier aussi,
oui,
avec d'autres firmes.
Puis ça, c'était intéressant parce que c'était le premier pont intelligent, si tu veux, parce que mm-hmm. le pont savait combien d'autos qui allaient sur le pont, dans quelle direction, combien de camions par rapport à ça. Il y avait, je pense, 28 senseurs là-dessus. Puis, alors que ça donne naissance à d'autres choses. Ben c'est ça. Je pense que le côté musical aussi m'attire beaucoup. Uh-huh. Faire une espèce de installation musicale participative qui fait le lien aussi avec la communauté autochtone, tu sais.
Ah, intéressant. Puis c'est drôle parce que ça fait le lien avec un... Tu avais fait un show pour Dream Theater aussi, justement.
Oui.
Fait que tu reviendrais avec le spectacle, un autre type, mais quand même... Fait qu'on revient, on est dans la grange.
La grange.
Love, on fait des liens avec le...
avec la grange a changé pas mal ma vie. Non, c'est ça. Je pense que vraiment, je suis choyé de vivre dans ce monde-là, puis de creuser aussi à l'intérieur pour avoir quelque chose à dire. Sinon,
ouais.
tu peux juste déplacer des pixels. Là, puis, bon. Puis la communauté aussi se pose des questions. L'art, on n'est plus dans la phase de l'art, où est-ce que on m'appelle sur une église, puis elle se démolissait, puis il y avait de l'eau. T'sais. Là, il faut dire des choses plus intéressantes que ça. Là, qu'est-ce que toi, tu as à dire? Comment toi, tu peux participer à ça?
Ça serait quoi ton projet de rêve?
Ben, je pense que c'est les nocturnes. Je pense que
c'est
du world building, mais avec des. Ben, peut-être avec Pixar ou avec.
Ouais, Disney, ouais. ouais.
Tu sais, comme prendre ces mondes-là, pas trop plastique, fantastique, mais mm-hmm. où que tu peux expérimenter beaucoup plus en texture, tu sais, en immersion, tu sais. Travailler avec des concepteurs vraiment de fun. Là. Mais je pense que ça s'en vient. Là. Ça s'en vient.
Ah, je suis contente d'entendre ça parce que je suis une fan de la première heure. Bernard, merci tellement pour l'entrevue. Puis continue à nous rêver puis à nous faire apprendre plein de choses.
Continue, Angie.
Ah,
c'est vraiment bon ce que tu fais là. Ça nous fait connaître les uns les autres. Là.
Il y a peut-être des maillages qui vont se créer.
Oui,
ça me ferait plaisir de savoir ça.
Merci encore, Angie.
Merci, Bernard. Merci d'avoir été des nôtres. J'espère que vous avez pu identifier comment vous pouvez intégrer la créativité et l'innovation dans votre vie. Si vous avez envie de plonger ou d'en apprendre davantage, vous pouvez me contacter sur mon site web innovcrea.com. Un merci tout particulier à Millimétrique qui a composé mes thèmes musicaux et à très bientôt.